pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
On veut décimer le peuple kanak, on veut anéantir le peuple kanak. Donc notre culture, notre identité, notre histoire.
Steve Huney, du Front de Libération Nationale, kanak et socialiste.
Nous, l'identité du peuple kanak, nous on est rattachés à la terre, à la nature, à tout ce qui est présent sur terre. Pourquoi ? Parce que nous avons des croyances profondes dans notre culture. Nous, chaque famille, chaque clan est issu et a une représentation totémique à un objet de la nature. Un animal, un arbre, une pierre, un lieu dit, de là où il est né. Voilà, c'est ça ce qu'on a voulu préserver depuis toutes ces révoltes-là.
La France a été et reste une puissance coloniale. Malgré ses grands mots et ses maquillages administratifs, l'Hexagone a toujours des colonies et exerce toujours des violences coloniales sur les colonisés. En métropole, silence radio sur ces sujets, sauf quand des colonisés se révoltent et que la métropole essaie de mater les rebelles. Mais sinon, on ne nous parle jamais des colonies et des gens qui y vivent. Alors dans cette émission, on a récemment évoqué le colonialisme chimique avec par exemple 90% des Antillaises et Antillais empoisonnés au chlordécone. Mais honnêtement, seriez-vous capable de placer sur une carte Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Réunion, Mayotte ou encore la Nouvelle-Calédonie? Ou plutôt, la Kanaky? Et c'est justement de ces îles de l'autre bout du monde conquises par la France en 1853 dont on va parler aujourd'hui avec Steve Huney, militant du FLNKS, arrêté en Nouvelle-Calédonie en 2024 avec 7 de ses camarades, déporté en France, jeté en prison, dont il est sorti en 2025. On a eu la chance de rencontrer Steve à Tours, sur le village Festilut du 1er mai 2026, et vous allez maintenant passer une heure passionnante avec lui. Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et la voix off.com et pour votre radio toujours libre préférée, vive la Kanaky! Vous vous souvenez peut-être qu'en 2024, les médias dominants nous ont parlé d'émeutes en Nouvelle-Calédonie. La première fois que j'ai entendu parler d'émeutes en Nouvelle-Calédonie, c'était en 1988 avec le massacre de la grotte d'Ouvéa, des événements racontés dans « L'ordre et la morale », film de Mathieu Kassovitz. C'était d'ailleurs la première fois en 88 que j'entendais parler de la Nouvelle-Calédonie tout court. Or, quand le pouvoir métropolitain parle d'émeutes, le FLNKS parle, lui, de révolte et surtout de lutte indépendantiste. Et l'un des objets du conflit est le processus électoral en Nouvelle-Calédonie. Alors pour aller vite, les Kanaks se voient dépassés en nombre par des vagues d'immigration de nouveaux arrivants, pour ne pas parler de colons. Et pour ne pas être surpassés en nombre, notamment aux élections, les Kanaks réclament donc un gel du corps électoral. Face à des gouvernements qui passent leur temps à louvoyer, la faire à l'envers et à user de mensonges et de violences. Et en matière de violence coloniale, la France a une bien longue expérience. On pensera notamment à ces événements d'Algérie entre 54 et 62, événements qui étaient bien une guerre coloniale.
C'est toi, oui, c'est toi, le blanc, le responsable de mon mal-être et celui de mes semblables. J'ai suivi à la lettre tes idéaux du consommable et voilà que mon île devient une décharge habitable. Joue en franc, je mets ton carte sur table. Tu m'as présenté Marie-Jeanne et JB pour mieux me contrôler. Tu nous divises, tu nous méprises et tu prends le kanak comme sujet d'analyse. Donc j'ai la haine, leur cachant n'est plus exploité, la mauvaise apprend le dessus. Je suis déçu de voir la terre de mes ancêtres entre les mains de personnes qui ne pensent qu'à paraître, être ou apparaître dans la rue. Dans nos tribus, tu t'accroches à nos montagnes, ouais, comme sensue. Le terrain est miné, tu veux nous dominer, mais à présent c'est terminé, car j'ai déjà trop ruminé. Tu es venu avec ta prêche, tout en convoitant nos richesses. Tu as vu qu'en allumant la mèche, à la langue et à la lèche, tu me ferais tenir la bêche, n'empêche, c'est pour ça que mon cœur s'assèche.
En Kanaky, il y a du reggae pacifique et aussi du rap bien vénère comme ici, avec ce désaccord commun signé Nasty et Reza. Avant de faire la rencontre de Steve Huney, quelques rapides éléments de géographie sur la Nouvelle-Calédonie, ou plutôt la Kanaky, un ensemble d'îles et d'archipels de l'océan Pacifique Sud, extrêmement riche en nickel. Superficie, 18 575 km². L'île principale, la Grande Terre, est longue de 400 km sur 64 km de large. Environ 265 000 habitants, dont près de 41% de Kanak. On y parle près de 30 langues, dont 28 langues autochtones. En 1774, le navigateur James Cook tombe sur ces terres que la France de Napoléon III colonisera, par la violence bien entendu, dès 1853, et notamment pour y installer un bagne. Par la violence, les Kanaks seront dépossédés de leurs terres, soumis, parqués, exploités. Et les années 1980 voient le début d'une nouvelle vague de tensions entre ces indépendantistes, les loyalistes et le pouvoir colonial métropolitain. Une fédération de mouvements kanaks va aboutir à la création du FLNKS vers 1985, et Steve va revenir pour vous sur cette longue et pénible histoire, toujours en train de s'écrire, et notamment dans la chair de votre invité. Bonjour Steve.
Bien, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent aujourd'hui.
1er mai 2026, on est ravis et je suis ravi de te tendre ce micro parce qu'il y a un an, on parlait de toi avec les camarades Kanak. Il y a un an, tu étais derrière les barreaux à Blois. Tu fais partie d'une des 7 personnes déportées de Kanaky. On dit aussi Nouvelle-Calédonie, ça on va en reparler. Ben, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici en chair et en os. Tu es donc sorti de geôle.
Ben, merci également de me permettre ce temps de parole. Effectivement, il y a un an, j'étais encore entre mes quatre murs, comme on dit plus communément, dans 9 mètres carrés. Je vous remercie de me permettre de m'exprimer, de pouvoir visibiliser tout ce que le peuple kanak a vécu depuis son histoire, avec sa relation avec son colonisateur, le pays colonisateur, donc la France.
Un peu d'histoire donc maintenant avec Steve, qui va vous dire ce qu'en métropole, on ne nous dit jamais, ni à l'école, ni dans les médias dominants. Une histoire qui nous ramène au 19e siècle.
Le 24 septembre 1853, donc il y a un navigateur français qui découvre les côtes de la Grande Terre du Caillou, et donc il décide de s'implanter en plantant le drapeau français. Ce fait-là a des conséquences vraiment destructives pour nous par la suite. Pourquoi je dis ça? Puisque tout de suite, la Kanaky, à l'époque, il y avait ce nom aussi qui était donné, New Caledonia, parce que avant les Français, il y avait James Cook qui était passé avant et qui a vu ses côtes et qui a trouvé qu'elles ressemblaient à ces côtes écossaises. Donc c'est pour ça qu'il a appelé New Caledonia, c'est la Nouvelle-Écosse. D'où l'histoire de ce nom, la Nouvelle-Calédonie. Mais nous, on l'appelait la Kanaky. Et à partir de ce moment-là, donc, l'État français s'est installé, c'est sous l'époque de Napoléon Bonaparte III. Et à partir de ce moment-là, ben, on devient quoi? On devient tout de suite un bagne colonial. On est dépossédé de nos terres par des guerres destructives qui éliminent, qui déciment le peuple kanak de l'époque, donc nos aïeux. Et en même temps, ben, on décide de parquer tous nos ancêtres dans des réserves. Et le statut qui nous est attribué, qu'on est... on n'a pas de statut, on n'était pas français. Nos aïeux, ils étaient quoi? Tout simplement des sujets. Donc régis par le code de l'indigénat, où on était soumis à des travaux forcés pour le gouverneur. Voilà comment ça a débuté cette histoire. Et s'en est suivi des premières déportations coloniales, des colons français, des maquisards, des communards, mais aussi de kabyles. D'autres personnes qui étaient en France, mais aussi qui étaient dans les autres... Donc je parlais d'Algérie, donc de la Kabylie. Pourquoi? Parce que c'était tous ceux qui étaient contre ce que décidait le gouvernement de l'époque. On parle de gouvernement, mais on parle de Napoléon, de gouverneur. Donc ce qu'ils envoient des gouverneurs successifs au pays et puis pour imposer ce qu'ils veulent faire d'ici, donc d'où le bagne. Et que les Kanaks, ben, eux, ils sont soumis aux travaux forcés. Voilà. Donc au fur et à mesure de tout cela, nos ancêtres, ils ne sont pas restés comme ça. Il y a eu quand même des révoltes par des chefs coutumiers. Parce qu'ils voyaient, ils disaient, attendez, ce n'est pas possible qu'on puisse nous déposséder de nos terres, ce n'est pas possible qu'on nous parque comme ça. Donc il y a une première révolte. Première révolte de 1868, c'est la révolte de ce que l'on dit le grand chef Ataï. C'est quelques années après la prise de possession. Et ce grand chef, avec toute sa population, ses sujets, ben, ils ont été tués, décimés. Lui, il a été décapité. Et son histoire, ses conséquences portent encore jusqu'au début des années 2000, où il a fallu un travail de fond mené par nos pères pour que sa sépulture puisse être rendue. Ça a été fait au début des années 2000. La sépulture de ce chef coutumier-là, parce qu'il était contre, il voulait protéger sa culture, ses sujets, ben, il a été tué, décapité, et sa sépulture a été emmenée ici en France, et a été exposée ici. Le grand musée à Paris, là.
Jacques Chirac, Quai Branly, là.
Quai Branly, exactement. Et il a fallu des recherches pour qu'on dise, mais attendez, ça appartient à l'histoire du peuple Kanak. Donc voilà, c'est un gros travail qui a été mené. Donc je parlais de cette première révolte. Ensuite, 1915, c'est la révolte du grand chef Noël. Donc lui aussi, décimé avec sa population parce qu'ils étaient contre. Et en même temps, il y a des petites révoltes qui sont éparpillées dans toute la grande terre du Caillou parce que certains de nos chefs coutumiers étaient conscients de cette problématique-là. On veut décimer le peuple Kanak, on veut anéantir le peuple Kanak. Donc notre culture, notre identité, notre histoire. Et nous, l'identité du peuple Kanak, nous, on est rattachés à la terre, à la nature, à tout ce qui est présent sur terre. Pourquoi ? Parce que nous avons des croyances profondes dans notre culture du fait que nous, chaque famille, chaque clan est issu et a une représentation totémique à un objet de la nature, un animal, un arbre, une pierre, un lieu-dit. C'est-à-dire, c'est de là où il est né. Voilà, c'est ça ce qu'on a voulu préserver depuis donc toute cette révolte-là. Et est venue les deux guerres. Les deux guerres, ben, ils sont venus chercher nos vieux pour aller faire la guerre. Toujours en n'étant pas français, en n'étant pas citoyen français, en étant voilà, assujetti au gouverneur en tant que vous êtes juste des personnes qui doivent être soumises au code de l'indigène. Donc on vient se battre pour la France. Mais tout ça, l'État français a su comment faire. Il fallait aller voir nos grands chefs, leur donner de l'argent peut-être ou leur donner des biens pour et dire ben, il faut aller défendre la patrie. Mais nous n'étions pas français. Mais à cette époque-là, nos vieux, ils n'ont pas été aux études. Donc, ben, nos vieux sont venus. Il y en a qui sont morts ici, qui ont été enterrés ici, anonymement. Et il y a eu quelques vieux, donc pas plus de 10, dont les familles ont pu faire les recherches et donc retrouver où est-ce qu'ils étaient enterrés et ramener les sépultures aussi. Parce que nous, on est attachés à la terre. Donc, nous, on a tous... Moi, si je meurs, je veux être enterré sur mes terres, comme la plupart de tous les gens qui ont leur appartenance, qui ont leur culture et tout. Donc ce n'est qu'à partir de l'après la Seconde Guerre mondiale, ou à partir de là, on met fin au code de l'indigène en 1946. Ça, c'est ce qui est dit publiquement. Mais légalement, on le devient totalement 10 ans après, en 1956. En même temps que le droit des femmes ici de vote ici. Mais entre cette période de 10 ans, seuls avaient le droit de vote les Kanaks qui savaient lire et écrire. Donc c'était très très sélectif, parce qu'il n'y avait que les pasteurs, que les gens de l'église, que ceux qui étaient instituteurs, qui étaient très très peu. Et ce n'est qu'à partir de 1956 qu'on devient totalement citoyen, qu'on a la nationalité française. La preuve en est que tous nos grands-pères qui ont fait les guerres, tout ça et tout, eux, ce sont juste des estimations de leur date de naissance, par exemple. Parce qu'on était de simples sujets du gouverneur. On était des indigènes, soumis.
Engagé, 35 mercenaires et puis payez-les donc rubis sur l'anglais, puis qu'ils retournent toute la terre de la terre et puis fouillez donc sous ses jupes aussi. Frottez-lui les fesses au gros sel et puis casez-le dans un lit de fer et puis réduisez le son de sa voix et puis transformez sa nuit en enfer ainsi. Tuez dans l'œuf la chanson et puis faites donc taire votre voisin aussi. Éteignez toutes vos lumières et puis empoignez les franges du rêve aussi. usez-lui les mains au labeur et puis casez-le dans un lit de fer aussi. Réveillez tant bien quelque peur et puis faites en prie développer le pays. Jetez-le vers les bras d'une femme et puis qu'il retourne à son labeur ainsi. Jour de gloire pour le tirailleur aussi. Allons-y en silence ainsi. 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 Allons-y en silence ainsi.
Il s'appelait Général Alcazar, aka Patrick Chénière, un complice de Pascal Comelade. Et la chanson s'intitule « Jour de gloire », tirée de la position du tirailleur, un disque extraordinaire et un titre parfait pour illustrer le récit de Steve Huney, militant du FLNKS qui nous racontait la violence de la colonisation de ces terres nommées Nouvelle-Calédonie par les Français et appelées Kanaky par les Kanaks. Une terre où le colonisateur, on l'a vu, a installé un bagne, une terre extrêmement riche en nickel, l'un des plus grands gisements de la planète qui excite bien des convoitises.
Le nickel a été découvert aussi quelques années après la prise de possession, donc toujours à la fin du 19e, par Garnier, qui a été sur place, qui a découvert. Ce n'est qu'à partir de 1905, véritablement, qu'il y a l'exploitation. Mais ce phénomène économique, il va nous apporter à ce que l'État français encore va appliquer des colonies de peuplement vis-à-vis du peuple kanak, par rapport au nickel. Donc il fallait faire venir d'autres peuples, des Polynésiens, des Wallisiens, Futuniens. Ce sont des frères de l'Océanie, comme on dit chez nous. Mais on a aussi, ils vont faire venir des Asiatiques et des Français qui vont venir s'installer durablement. Et aujourd'hui, ben, leur deuxième, troisième génération, ils se disent, mais ils sont arrivés juste pour un objectif économique et enrichir la France. Donc c'est pour ça que ça a été fait de cette manière-là. Mais quand je parle de colonie de peuplement, parce que ce sont des faits qui font que l'objectif, c'est toujours de nous rendre minoritaires. Le colonialisme, on parle de colonialisme et d'impérialisme. Donc on va vous réduire. C'est d'ailleurs le terme de la loi Mesmer des années 1970, où il fallait faire venir un maximum de personnes étrangères au Canada pour les réduire en nombre. Je parlais des années 70, les lois Mesmer. Et nous, c'est surtout à la fin des années 60 aussi, donc mai 68 ici. Nous, on avait nos premiers étudiants ici. Mais il faut savoir que le premier bachelier kanak, c'était dans les années 1960. L'accès aussi à l'éducation, elle était très restreinte, très bloquée. Donc tout ça, c'est la suite. Après les deux guerres, la nationalité française, mais les droits, on ne jouit pas des mêmes droits encore. Maintenant, ça, c'est la génération de nos pères. Donc on arrive en 68, premier bachelier, donc les premiers étudiants par la suite, fin 68, et ils assistent ici à 68, ce qui se passe ici. Et là, ils disent, bon, ils ont compris pourquoi nos ancêtres, ils ont fait ça, il faut préserver notre culture, notre identité. Il y a la création des partis politiques indépendantistes, ainsi de suite. Et l'émergence de l'indépendance, du terme indépendance. Et c'est là que petit à petit, ça naît, la création. Donc là, on est dans une société, on passe aux années 80. Et par rapport à la loi Mesmer, c'est à partir de ce moment, de cette loi-là, de colonie de peuplement, parce que Mesmer, c'était colonie imposée, colonie de peuplement pour nous réduire. Là, il y a eu 1983. 1983, c'est une étape, une date importante, parce que c'est ce qu'on appelle les accords de Nainville-les-Roches. Nainville-les-Roches, ça dit quoi? Ça dit que le peuple kanak reconnaît les descendants de tous les déportés que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'ils sont victimes de l'histoire colonialiste. Donc toutes les générations, tous leurs descendants on va partager notre droit à notre autodétermination avec eux. C'est un grand pas qu'on fait, ça c'est unique au monde.
C'est très généreux. Hein.
Ben, c'est unique au monde et personne ne le sait. Ce droit-là qui est inscrit sur le droit international, parce qu'en même temps, ça y est, on est inscrit en tant que territoire non autonome, c'est ce que je disais tout à l'heure, inscrit sur la liste des pays à décoloniser au monde, à l'ONU, eh ben, on dit qu'on va le partager à ces personnes-là. 83, c'est une bonne chose, mais ce n'était pas suffisant encore pour le colonisateur. Donc il impose d'autres lois. Et la loi qui va arriver, c'est 88. Et Bernard Ponce, le ministre des Outre-mer de l'époque, il voulait profiter de l'entre-deux tours présidentiels, Chirac-Mitterrand qui était président, Chirac qui était premier ministre. Donc c'était aussi la première cohabitation politique, droite-gauche. Ponce, il passait pour dire on va faire un référendum de sa loi. Ponce, c'est abolir l'identité kanak. Donc nous, on ne parlera plus de nous en tant que kanak, ni de notre culture. On sera des Français pure souche. C'est ça l'origine de 88. Donc qu'est-ce qu'a décidé le FLNKS? Puisque le FLNKS, il a été créé en 85.
FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste.
Ben en fait, on a toujours affirmé qu'on est de gauche. Mais maintenant, parce qu'on est toujours, nous maintenant, c'est LFI qui nous défend, plus les socialistes. Mais on a toujours gardé ça, parce que ça, c'est l'héritage de nos pères. 88, donc il y a ça. Qu'est-ce que le FLNKS y décide? On va occuper pacifiquement les gendarmeries de Nouvelle-Calédonie pour que le maintien de l'ordre ne soit pas assuré, donc pour mettre du désordre dans les votes. Point. Pacifiquement. Ben, il y a juste à Ouvéa où ça s'est mal passé. L'histoire d'Ouvéa, pourquoi on n'en parle plus maintenant? Parce que ça a été amnistié. Eux, ils ont dit, avec la désinformation, la prise de la gendarmerie, en fait, c'était une occupation pacifique qui a vraiment viré. Et si j'en parle, ça, c'est parce que Mathieu Kassovitch a fait un film.
Oui, justement, j'allais te demander, est-ce que ce film est bon et fidèle?
Il est bon. Je te disais parce que j'ai joué dans le film.
Ok, d'accord.
J'ai joué le cinquième rôle du film.
Ce film sur le drame de la grotte d'Ouvéa s'intitule donc « L'ordre et la morale ».
Donc, à l'issue dramatique de ces événements, qu'est-ce qui s'est passé? On a le massacre des 19, on a des gendarmes aussi morts, on a des militaires aussi morts. La politique a fait en sorte qu'après, on passe aux accords de Matignon. Mais en même temps, il y a eu des événements aussi antécédents dans les années 80. Le guet-apens de Wagnat, des frères Tchibaou, avec 12 qui ont été assassinés par des non-indépendantistes. Il faut savoir que l'État, la justice avait déclaré un non-lieu. Il y a eu un appel. Mais tout ça, lorsqu'il y a eu les accords de Matignon, dans un premier temps, il y a eu l'amnistie générale. Mais l'amnistie ne s'est pas focalisée uniquement sur 88. À partir des années 80, pour que tout le monde qui a eu une histoire de fait de crime ou de délit lié à la Kanaky, ben, soit amnistié. Mais seulement nous, quand ils sont revenus d'ici pour dire qu'on a signé, le peuple n'était pas d'accord. Il dit attends, c'est quoi? Donc il fallait faire Oudino. Donc en fait, on ne dit pas assez souvent, mais c'est les accords de Matignon, Oudino. Oudino est venu complémenter dans le fait que maintenant, il faut du rééquilibrage pour le peuple kanak, pour que le kanak puisse accéder à des postes à responsabilité. 10 ans. Mais en même temps, on disait en 88 aussi, ok, donc on va ouvrir encore notre droit à l'autodétermination à ceux qui sont arrivés entre 83, après 83 et 88. Encore un geste qu'on fait. 10 ans, on arrive à 98, et on dit qu'on n'est pas prêt encore. Donc nos décideurs, ils disent, on va repousser, on va poursuivre l'accord de Nouméa, 20 ans. Et on dit, ok, on ouvre encore à ceux qui sont arrivés entre 88 et 98. C'est un contentieux colonial. Le corps électoral, ceux qui ont le droit de partager avec nous notre droit à l'autodétermination. Ben, on arrive à la fin des accords de Nouméa, il y a eu 3 accords, quel que aurait été le résultat, il fallait qu'on revienne autour de la table pour discuter, même si nous on aurait obtenu le oui. Mais nous, on a, comme je disais tout à l'heure, on a boycotté.
Boycott, c'est pas juste pour entraver le processus démocratique ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a eu le Covid entre-temps, c'est ça?
Voilà. Nous étions dans une période post-Covid où on a eu près de 500 morts. 500 morts dans une population de 260 000. Chez nous, c'est beaucoup. Donc 90% sont des Kanaks. Et on a notre culture, on a nos us et coutumes. On a un an de deuil. Donc on le demande à l'État de respecter cela. L'ensemble de tous les coutumiers demandent cela. Mais non, il n'y a aucun geste qui est fait. On dit qu'il faut faire les élections démocratiques en temps et en heure. Donc on le boycotte et on n'y participe pas. Donc ils disent 98% de non à l'indépendance, mais avec une participation de 43%. C'est pas significatif. Mais l'État dit que bon, vous avez choisi 3 fois, donc maintenant c'est bon, on ne parlera plus d'indépendance. Et donc vont se succéder les différents faits politiques, comme on dit tout à l'heure, où il sort de son impartialité. Et il nomme la présidente anti-indépendantiste de la province sud en tant que ministre délégué chez lui, au sein du gouvernement. Ensuite, en plus de ça, il propose des projets de loi unilatéralement, alors que tous les accords qui se sont succédés, c'est consensuel, tripartite. L'État, qui est garant de son impartialité, mais aussi de la légalité des textes, et les indépendantistes et les non-indépendantistes. À partir de ce moment-là, de ce projet de loi qui est imposé donc pour dégeler complètement le corps électoral, c'est-à-dire toute personne qui arrive de France qui pourra voter d'office. Mais lorsque j'évoquais depuis tout à l'heure, historiquement, nous, on a ouvert déjà depuis. On dit maintenant stop, ça suffit, on restera comme ça. Parce qu'on ne va pas nous rendre minoritaires sur notre droit à nous, innés.
Ici, on a eu le discours, hein. Regardez, ils ne sont pas démocrates, les gens ont voté, alors en plus, on n'a pas respecté votre période de deuil. Et il y a cet arrivage constant de personnes non kanak qui arrivent, qui immigrent chez vous, si j'ose dire. Et après, on a beau jeu de se réfugier derrière un décorum démocratique en disant, bah, regardez, les gens ont voté.
C'est ce que je disais, les chiffres aussi parlent, parce que quand on parle de vote et de résultats de vote, c'est surtout, on analyse d'une manière pragmatique et puis objective. Il dit, ok, on a 98% de oui, mais il y a eu 43% de participation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre non-participation est représentative. Ce qui n'est même pas atteint la moitié de l'ensemble des électeurs. Notre non-participation a été reconnue par les instances internationales. Ils ont sommé la France de revoir.
Petit canac, ne fais pas attention à ceux qui te dénigrent. Tu t'en sortiras même s'ils veulent te pousser dans le vide. Tu es ici chez toi, même si certains pensent le contraire. Tu es ce que tu es et ton nom te rattache à ta terre. Je te le dis, sois fier de ton identité. Reste le même et affirme-toi en crachant la vérité. Prouve à tous que ce qu'ils font toi aussi, tu peux le faire. Et si ça les énerve, dis-toi que tu représentes pour tes frères. Ce putain de système veut ta perte et tu le sais. Issu d'un peuple colonisé, tu en seras toujours traumatisé. Mais cela, certains refuseront toujours de l'admettre. Excuse-moi vulgarité, mais qu'ils aillent tous se permettre. D'ailleurs, tu n'as pour maître que ton père et ta mère. La famille, c'est sacré, et c'est ton tout premier repère. Et si tu erres sans raison, ressaisis-toi de suite. Évite de déconner ou les flics se lanceront à ta poursuite. Et si, victime de l'échec scolaire, tu ne comprends pas, ne t'en veux pas, car tu n'es pas le seul dans ce cas. Je sais bien que s'adapter n'est pas si facile. Ce système n'est pas le nôtre et il nous prend pour des débiles. Je te conseille d'ouvrir des livres et t'abreuver de savoir. Cherche à comprendre ce monde, à commencer par ton histoire. Si tu rêves de victoire, bats-toi pour y accéder. Avec du taf et de la chance, tu pourras y arriver. Petit canard, reste humble, se la péter, ça sert à rien. Je te le dis, c'est ridicule et ça déshonore les tiens. Car rien ne vaut l'humilité qui caractérise les nôtres. Rien ne vaut nos vraies valeurs, donc ne fais pas comme les autres. Respecte tes potes et frères des autres aires coutumières. Car dans le fond, ça sert à rien de toujours se faire la guerre. À qui cela profite? Pas à nous dans tous les cas. J'écris Kanak Unity. Petit Kanak, l'entends-tu pas?
Petit Kanak, entends ma voix, car j'entends tes cris. C'est à toi que je m'adresse, car je m'inquiète pour ta vie. Alors tends l'oreille ou tends-moi juste la main. Si je te parle ainsi, c'est que je pense à demain. Petit Kanak, entends ma voix, car je te dirai.
Ibal Kan, Petit Kanak, avant de retrouver Steve Huney, militant du Front de Libération Nationale, Kanak et socialiste. Et on va repasser sur les événements de 2024, qualifiés d'émeute par Paris. Mais Steve n'a évidemment pas la même analyse. On le rappelle, 2024, les Kanaks sont alors encore en deuil à cause des morts du Covid. À cause du deuil, une majorité de Kanaks boycottent un scrutin qui est donc remporté à 98% par les anti-indépendantistes, mais avec seulement 43% de participation. Ce manque de respect démocratique de la France est montré du doigt par des instances internationales. Et sur place, la colère gronde.
En réponse à ce projet de loi qui a été unilatéralement proposé par le gouvernement, sans consensus, on décide, l'Union calédonienne, donc le principal parti politique indépendantiste, le principal parti aussi du FLNKS, décide de relancer la CCAT, la cellule de coordination des affaires terrestres, c'est l'outil de mobilisation. Contrairement à ce qui est dit contre nous, dans notre affaire, où c'est l'outil armé. On fait des manifestations, des meetings, des courriers officiels adressés au gouvernement pour leur dire non, arrêtez de faire ça. On les a prévenus. Ben, le gouvernement fait la sourde oreille. Et ce qui s'est passé après en 2024, ce qu'on appelle ici les émeutes, ce n'est pas des émeutes, c'est la révolte de notre jeunesse par rapport à cette injustice. Donc, ce que moi je rappelle toujours parce que c'est quelque chose d'essentiel. Dans la nuit du 12 au 13, au pays, ça a clashé. Pourquoi? Le RAID du Pacifique, installé en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky, est intervenu à 0h dans le quartier le plus populaire. Je ne sais pas pour quel motif. Mais à 0 heure, moi je suis un ancien flic, moi. 6 ans dans la police nationale. Je connais. On n'intervient pas en dehors des heures légales selon ta volonté. Non, non. C'est des cas précis. Prise d'otage, terroriste, association de malfaiteurs, voilà. Ce qui n'était pas le cas parce que nous, tous les jeunes, nos militants, ils étaient sur la route, sur le bord de la route, avec le drapeau. Parce qu'il fallait sensibiliser. Bien, suite à cela, nos jeunes, ils sont retranchés, 5 blessés, parce qu'ils sont rentrés dans les maisons. Il y a eu des mamans qui ont été blessées. Et ils se sont retranchés, et là, il y a le mécanisme que l'on sait par rapport aux réseaux sociaux. Les jeunes se sont organisés, et toute la journée, ils ont affronté les forces de l'ordre devant leur quartier. Il y a eu les premières sociétés qui ont été brûlées, pas par leur faute. Il y a des vidéos qui ont démontré que ce sont les forces de l'ordre qui ont tiré avec leurs grenades, qui ont fait brûler. Et donc, lundi 13 mai, mardi 14, le projet de loi, il avait déjà été validé au Sénat, et le 14, il devait passer à l'Assemblée nationale. Ils ont validé. Il y avait déjà eu le début des émeutes. Et nous, nos soutiens politiques, et les filles, mais il n'y a que les seuls, les socialistes, ils ne nous ont jamais défendus. Donc ils ont été dire, attention, ne faites pas n'importe quoi. L'effet domino de nos jeunes maintenant, ça pète dans un quartier populaire, ça pète dans tous les quartiers populaires d'une ville. Ici en France, c'est comme ça que ça se passe. Et ça s'est passé de la même manière. Réponse de l'État, état d'urgence, couvre-feu, 18h, 6h du matin, et envoi de 8000 forces de l'ordre, avec des moyens disproportionnés. Parce que nous, on nous envoie des blindés militaires, des hélicoptères Caïman de guerre.
Des Centaures aussi, non, les blindés Centaures.
Les Centaures, ça c'est de la gendarmerie, mais là je parle de blindés de l'armée. Il y a eu des forces de l'armée spéciales qui ont été envoyées. Des bérets verts parachutistes, des bérets rouges, des chasseurs alpins. On ne le sait pas, on ne le dit pas. Nous, on était témoins de tout ça. Et 8000 forces de l'ordre pour faire face entre 1000 et 1500 jeunes qui se sont révoltés dans le quartier le plus populaire. On peut mesurer la disproportionnalité des choses. Armés, ils avaient le droit de tuer, c'est ce qui s'est passé. Sur les 14 morts, 11 morts jeunes Kanaks, tués par les forces de l'ordre, tués par des milices, tués par des policiers, agents de forces de l'ordre calédoniens qui n'étaient pas en service. Et même chose aussi, il y a des tués par des forces de l'ordre qui n'étaient pas en service. Mais il faut savoir que toutes ces 11 affaires-là ont été classées sans suite pour de légitime défense. Nous, maintenant, par le biais des collectifs des familles endeuillées, on veut réactiver les dossiers d'enquête. Ben, il faut savoir que par dossier, il faut 10 000 euros. Donc voilà, tous ces faits coloniaux. Et on a nos jeunes qui sont assassinés. On va parler, on ramène le calme et tout. Un mois après, qu'est-ce qui se passe? On est interpellé violemment. Moi, j'ai été interpellé chez moi à 6 h du matin devant mes enfants. Casse la baie vitrée, on rentre et tout.
C'est quand ça?
19 juin 2024 au matin. On nous interpelle. Le quartier est bouclé, les Centaures sont là, les drones sont là, les hélicoptères sont là. On m'énonce mes chefs d'accusation, 7, et on me dit que vous êtes considéré comme le chef de guerre de la CCAT. Ah bon. 4 jours de garde à vue parce que c'est terroriste, on est considéré terroriste. Tous les 7, on était 11 interpellés. 4 jours de garde à vue, dont le dernier jour où on est présenté déferrement, comme on dit dans le jargon judiciaire. Et on est déféré. Mais pendant les 3 jours, on était traités comme des animaux. Pas d'hygiène, pas de douche. On mange les bols de soupe asiatique où on rajoute de l'eau chaude. Voilà ce qu'on mangeait. Comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils voulaient nous briser. Notre conscience, notre résistance, notre lutte. Non. Vous savez pertinemment qu'on voilà, on est en train de faire face à une injustice coloniale encore. Il y a véritablement cette violence psychologique, où on nous annonce le 4e jour, donc là on est le 22 juin 2024, où on nous annonce au tribunal que monsieur, vous venez, ben écoutez, vous êtes placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Blois. Pour 1 an.
À l'autre bout du monde.
Oui, à plus de 20 000 kilomètres de chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise et que l'on fasse quand on fait face au colonisateur avec toute sa puissance?
Parce toi que, et 6 autres personnes.
Moi et 6 autres camarades, donc on est 7. 2 autres n'ont pas été placés en détention pour des raisons diverses que l'on ne sait pas.
Il y en a eu un à Bourges, non?
Oui. Et 2 autres qui ont été incarcérés au pays parce qu'ils ont demandé un délai de 24 heures de défense. Mais sinon, nous, tous les 7, ben, le soir même, dans la nuit même, donc du 22 au 23, on est toujours dans le tribunal sans avoir mangé. Pendant 24 heures, on n'a pas mangé. Dans la nuit, on est transporté par les véhicules vers l'aérodrome régional. On monte dans un casa de l'armée. Des escortes et tout, on n'a même pas dit au revoir aux familles, on n'a même pas de linge et tout. On part comme ça avec nos habits d'il y a 4 jours, 5 jours. Et on monte dans l'avion, on va vers l'aéroport de la Tontouta, l'aéroport de la Kanaky. Et là, ben, comme par hasard, On arrive, on descend. Ah, il y a Airbus A330 de l'armée de l'air qui nous attendait déjà. Je vous laisse imaginer ou comprendre tout le déroulement. 4 jours de garde à vue, on nous défère, on nous dit qu'on est déporté et en même temps, il y a déjà un avion qui est prêt. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ben, on monte dans l'avion, on est le dimanche 23, il est 4h du matin, on quitte nos terres. Et c'est dur, psychologiquement c'est dur. Mais on reste fort parce qu'on est des hommes, des pères de famille, des militants. On pense à beaucoup de choses dans ces moments-là où on pense. Moi, je pensais à ma famille, je pensais à mes enfants, je pensais, mais dans nos têtes, la résistance, elle débutait dans une nouvelle phase. On allait être éloigné de nos racines, on va être arraché. Et ça a duré un an. Je suis sorti l'année dernière comme mes camarades en juin 2025. Et on sort avec une fierté. On sort avec une résistance décuplée. Parce que voilà, on fait face à une injustice coloniale, point. Donc voilà, où on arrive, 25, et on sort. Et depuis l'année dernière, donc vous avez dit que le 1er mai de l'année dernière, vous étiez là, on parlait de moi, voilà, sans que vous avez une image, sans que vous aviez. Et donc là, on est sorti depuis l'année dernière. Je disais tout à l'heure que l'instruction, elle est close. On attend la suite des émoluments judiciaires entre le parquet et nos avocats. Mais on peut rentrer chez nous, parce que quand on est sorti, on avait eu quand même des restrictions judiciaires très strictes. Interdiction de rentrer chez nous, interdiction de rentrer en contact entre nous les 7, obligation de répondre à la justice et interdiction d'être contrôlé avec des armes. Voilà. Donc on a vécu tout ça. On a participé à plusieurs meetings en France, ici plusieurs conférences pour continuer de visibiliser davantage ce que l'on a vécu et puis cette lutte. Et donc vous en faites partie encore. Je disais tout à l'heure merci. Et donc maintenant, on arrive bientôt à un an de notre sortie, bientôt, parce que c'est dans presque un mois, un peu plus d'un mois. Ben, ça restera gravé dans nos mémoires, dans nos têtes, dans nos familles, dans nos enfants. Voilà le prix qu'on a eu à payer pour notre militantisme et pour préserver nos droits. Nos droits les plus fondamentaux inscrits dans le droit international, c'est-à-dire notre droit à notre autodétermination. Voilà comment on nous a considérés. Et maintenant, depuis l'année dernière, ben, l'État a voulu négocier parce qu'ils savent qu'ils ne pouvaient pas passer en force. Sans le dire, mais ils le reconnaissent, ce principe de consensus en Kanaky. Et au final, c'est quoi? Eh bien, propose Bougival. Mais il y a toujours ces façons de faire de nos...
Bougival, c'est des supposés accords.
Donc nous, ce qui nous a été donné comme information, ce qui a été signé le 12 juillet l'année dernière, en 2025, c'est un projet d'accord qui devait être présenté au peuple, aux militants. Ben, ils ont signé le matin et le soir même, ils sont convoqués à Matignon où on annonce qu'il y a un accord de la confiance. Et ensuite, ben, vous voyez toujours les comportements de l'État, on parle de comportement du colonisateur. Et on continue, on ne veut pas. Et ça continue. Un an après, on dit qu'on est des... Voilà, on n'est pas démocrate, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et on arrive maintenant où ils ont voulu faire passer en force. Enfin, il y a eu d'abord retoqué par une première fois à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont répondu qu'il y a une CMP qui a été mise en place, une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, elle a dit, maintenant, vous n'allez plus parler de Bougival, il faut avancer avec un nouveau dialogue. Ben, qu'est-ce qu'a fait l'État? Non, ils ont repris Bougival, ils sont repartis. Ben, on va compléter par Élysée ou Dino. Et dedans, c'est toujours la même chose, il n'y a rien qui fait. Donc on est toujours non, le FLNKS n'est pas absent. Et au final, là, quand ils ont voulu faire passer, le Sénat l'a accepté parce qu'il y avait la majorité présidentielle. Il y a eu une majorité présidentielle. Par contre, quand ils sont passés au Sénat, c'était retoqué de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ce que le fait réglementaire, le fait de droit dit, ben, ils doivent suivre ce que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État après, a dit. C'est-à-dire, maintenant, c'était la dernière fois le report de l'année dernière, ils doivent se faire maintenant, au plus tard le 28 juin, avec un corps électoral gelé, puisque le corps électoral gelé, il est constitutionnalisé et il est légal. Ils ont été portés cette problématique-là au niveau européen et international. Ils ont dit non, votre constitution l'approuve, vous ne pouvez pas. Donc on est à ce point-là, où on se prépare maintenant pour les élections provinciales, parce que ça va être très, très, très stratégique pour nous. C'est très spécifique, c'est-à-dire à la Kanaky, le Caillou, elle est répartie en 3 provinces. Donc il y aura les élections provinciales des 3 provinces, où on va élire le président de l'assemblée de chaque province avec son assemblée provinciale. Et ensuite, chez nous, il y a une répartition, selon une clé de répartition, comme on dit, où il y aura des élus qui vont être propulsés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça. L'accord de Nouméa le prévoit. Et à partir de ce moment-là, si nous on arrive à avoir une majorité, eh bien, ce sera le congrès de la Nouvelle-Calédonie qui va élire le gouvernement de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Voilà comment ça se passe. Et donc maintenant, ils ont très très peur parce qu'on va y aller vers un corps électoral gelé et ils savent que leur légitimité est vraiment mise en cause. Ils ont toujours porté des messages haineux vis-à-vis de nous, en disant que nous, si on a l'indépendance, la première chose qu'on veut chasser tout le monde. Alors là, non, c'est pas ça. Nous, ça a toujours été le fait que la parole de nos pères, on la respecte. La parole de nos ancêtres, on la respecte. Par contre, nous, on veut construire notre pays avec ceux qui veulent faire pays avec nous. C'est-à-dire qu'il faudra respecter ce qui sera été décidé entre nous pour construire le pays. Et à partir du moment qu'on aura comme ici, où on va venir, on va s'enrichir, puis on se casse, non, c'est pas ça. Nous, on ne prend plus pour ce genre de politique économique. Non. Donc voilà, maintenant, on en est là. La situation actuelle, c'est qu'on se prépare aux élections et qu'on espère fortement avoir cette majorité pour que l'on puisse après avoir une majorité et conduire notre projet. Et toujours avec tous les Calédoniens, ceux qu'on a déjà reconnus. Parce que dans la plupart de ceux qui sont face à nous, les non-indépendantistes, ce sont tous ces victimes de l'histoire qu'on a reconnues.
Il y a combien d'habitants et d'habitantes en Nouvelle-Calédonie? 260 000, 300 000
265 000, 265 000 et quelques. La population kanak, elle est que 41%.
Les personnes qui sont non kanak, parce que tu l'as dit dans votre histoire, vous avez eu des vagues d'immigration, vous avez eu des Français, vous avez eu des communards, mais aussi des Asiatiques. Donc c'est très compliqué, on ne peut pas dire il y a les kanak et puis les pas kanak. Ben, il y a quand même eu du métissage, des gens qui...
Non mais ça c'est pas un souci. Ça c'est un souci de perception démographique. On ne fait pas une analyse ethnique là. C'est nous les kanak, les indépendantistes kanak, il n'y a pas que nous les kanak. Il y a des indépendantistes non-kanaks qui sont avec nous, comme de l'autre côté aussi. Il y a des non-indépendantistes, mais il y a des kanaks aussi, donc c'est normal. Chacun a le droit d'exprimer son opinion politique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est à 41% de kanaks. Tout le reste, ils sont à 59%.
41%, mais en fait, avant, c'était beaucoup plus. Mais comme tu l'expliquais tout à l'heure, avec ces vagues d'émigration successives, là, tu disais jusque dans les années 80, ce ratio-là qui est à 41% aujourd'hui, il était beaucoup plus élevé avant. Donc ça a été aussi une manœuvre pour vous les Kanaks, vous surpasser par le nombre. Et après, on a beau jeu de faire un décorum démocratique en disant, regardez, les urnes ont parlé, ils ne sont que 41%, nous sommes la majorité parce que les pas Kanaks, c'est 60%. Enfin.
Notre représentativité démographique, elle n'est pas liée aux résultats électoraux. Ça, c'est l'ITSE qui a décelé cela. Mais par contre, on le voit à travers, par exemple, les trois référendums où... On était à 41%, ensuite on était à 42%, 42%, et le deuxième référendum, on était à 47%. Donc voilà, sinon on a boycotté aussi, mais c'est parce que si on l'avait fait, on aurait certainement eu un résultat encore meilleur. Ça aurait peut-être passé majoritaire, mais là n'est plus le problème maintenant.
Donc accessoirement, même si c'est plus le problème, il y a aussi des personnes qui sont non-kanaks, qui sont du côté du FLNKS aussi.
Bien sûr, parce qu'eux, ils ont toujours, la plupart, il y a certains qui ont compris notre message. Vous savez, il y a des Français métropolitains avec leur famille qui sont avec nous. Parce qu'ils ont compris qu'on ne met jamais de la vie, on va vous chasser. Mais par contre, vous voulez construire avec nous notre pays, il n'y a pas de souci. Apportez vos compétences, il n'y a pas de souci. Maintenant, la lutte par rapport à notre représentativité démographique, enfin, cette lutte, elle est basée sur la conséquence de toutes les colonies de peuplement. Ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure, jusqu'aux années 80. Mais maintenant, tout Français peut venir s'installer, il n'y a pas de souci. Tous les membres du pays européen, des membres de l'Union européenne, ils peuvent venir s'installer chez nous. Mais il faudra qu'ils aient 10 ans de résidence pour prétendre après à voter, pour partager avec nous ce droit-là. Et ça, ils n'acceptent plus. Ils disent qu'attendez, on est sur le territoire français. Non, on est sur un territoire non autonome. La France n'est plus souveraine.
J'ai justement une petite question d'ordre administratif. Cette terre-là, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, administrativement, c'est pas un département, c'est pas une région, c'est pas un territoire d'outre-mer.
On était au début un territoire, un tome. Après, on est devenu un com, collectivité d'outre-mer. Et maintenant, on est un pays-territoire d'outre-mer. C'est un statut sui generis, comme on dit, qui est unique, qui est nouveau, un pays-territoire.
C'est juste pour vous, quoi.
Oui, parce qu'on est un territoire non autonome, contrairement à tous nos autres camarades des outre-mer. Parce que la plupart aux Antilles sont tous départementalisés jusqu'à La Réunion, sauf nous au Pacifique. Nous, au Pacifique, avec la Polynésie française, c'est différent, on n'est pas départementalisé. Wallis et Futuna est encore un autre statut particulier. Parce que en Wallis et Futuna, il y a une coexistence du droit français et des royaumes de là-bas. Donc nous, on est véritablement ça. On est un PTOM, territoire d'outre-mer, ou une collectivité particulière d'outre-mer, c'est POM. on a ce statut particulier, on est un territoire autonome aussi. Donc la France, elle est, chez nous, elle est plus souveraine, comme elle le fait dans les autres départements d'outre-mer. Non, c'est différent. Donc je le rappelais tout à l'heure, elle doit nous accompagner, point. Mais seulement, comme on dit toujours, comme a dit Benoît Trépied, comme a dit les autres anthropologues français, la France ne s'est pas décolonisée. Parce que chez nous, il y a le nickel. Et de là, on le voit de plus en plus. Même l'Union européenne en parle de nous, où on dit qu'il faut que la France, elle maintienne, parce qu'on a besoin de notre nickel. Voilà ce qu'on a toujours dit, et ce que ça a toujours été caché ici. Parce que toutes les usines d'Europe maintenant, là, qui achetaient chez la Russie, ou en Indonésie, ou en Chine, ben, il y a les blocus commerciaux, il y a les blocus économiques, il y a les blocus d'échanges latéraux. Ben, on rejette l'air qui est envers nous. Parce que nous, on est là, je le rappelle, dans quelques années, la Nouvelle-Calédonie va être la troisième réserve mondiale pour le petit espace qu'on est, la petite superficie qu'on est. On va devenir la troisième réserve mondiale. Je laisse à tout le monde de réfléchir à toutes ces données. Pourquoi la France ne veut pas? Pourquoi? Parce qu'il y a tout ça. Et l'Europe via la France. Donc on est bien conscient de toutes ces choses-là. Mais nous, on maintiendra toujours notre volonté de nous donner notre indépendance. Parce qu'à partir de ce moment-là, on décidera. On reste dans l'Union européenne. On a des interdépendances avec la France. C'est-à-dire on va signer des traités, des commerciaux, économiques et tout. Mais avec d'autres pays aussi du Pacifique. Ou avec des pays asiatiques, pas avec uniquement la France. C'est ça ce que la France ne veut pas. Parce qu'on n'a pas notre pleine autonomie pour discuter de tout cela actuellement, parce qu'on est toujours colonisé. Donc voilà, on continue cette lutte à travers, même là, notre présence. C'est ça, c'est de dire, de visibiliser. Et de dire que ben, notre lutte, comme a dit notre feu président du FLNKS, M. Tibaou, qui est décédé, il a dit, tant qu'il y aura un Kanak qui est présent au Kanaki, ben, il vous emmerdera toujours. C'est ce qu'il a dit. Et donc nous, voilà où on va, on continue. Notre trajectoire, elle est toujours la même.
Juste la main si je te parle ainsi. C'est que je pense à demain. Petit Kanak, entends ma voix. Car j'entends tes cris. Et si tu me dis Kanaki, je te dirai Unity. Petit Kanak, je suis comme toi. Juste un Kanak parmi ton d'autres. Retiens juste ça. Je me bats pour les autres.
Alors surtout ne laisse jamais personne divisé. Car comme tu le sais, notre force viendra de notre unité. Je sais que tu feras l'effort d'agir comme il le faut. Afin de rester digne et d'honorer notre drapeau. Bats-toi pour nos idéaux sans commettre l'irréparable. N'oublie pas que tes actes seront jugés par tes semblables et par les autres aussi. Donc évite de te salir, réfléchis avant d'ouvrir, mais surtout avant d'agir. Écoute, car je te parle pour que tu comprennes que la vie est ce qu'on en fait et que tu en tiens les rênes. Tu sais d'où que tu viennes, je t'en prie, reste le même. Que tu évolues en tribu ou dans la jungle urbaine, les problèmes restent les mêmes, car rien n'est facile. J'en place une au passage pour tous nos frères en exil de la grande terre aux îles. Mon message, je colporte au fur et à mesure. Ma parole devient forte, mais bon, libre à toi de faire ce que t'en veux. Moi je l'ouvre pour les nôtres, pour qu'un jour tout aille mieux, pour qu'un jour on s'en sorte et qu'un jour on soit fort. Et j'espère voir ça avant les jours de ma mort. Je suis venu péter le score, mais plus rien ne m'amuse. Et en pensant à nos leaders morts, leur système j'accuse. Mais ce qui est écrit, je ne fais que le dire. Faut qu'on aille de l'avant, donc prépare ton avenir. Petit Kanak, nous sommes pareils, malgré nos différences et malgré nos divergences, faisant preuve d'intelligence.
Y aura-t-il à l'avenir de l'intelligence et de l'amitié entre les peuples Kanak et français? Vous avez entendu Steve, de l'intelligence, de la patience, de l'ouverture et de la bonne foi. Les Kanak et les gens du FLNKS en ont fait preuve. On ne peut pas en dire autant du pouvoir français, pouvoir toujours colonial. Et pourtant...
J'ai trouvé très touchant dans l'intervention que tu faisais aussi tout à l'heure, et comme tu viens de le dire aussi à l'instant, ces liens qui existent avec la France, ben, ils sont solides. Enfin voilà, nous avons cette conversation en langue française.
Oui, bien sûr.
Je trouvais ça enfin, très touchant et très généreux, enfin, en même temps, en disant, bon voilà, vous nous avez colonisés, vous nous maltraitez mal. En attendant, je vous le dis en français quand même. Hein.
Oui, bien sûr, parce que comme je disais, le coloniser, c'est aussi, comment dire, l'impérialisme. C'est quoi? C'est soumettre un peuple avec son pays, se soumettre aux lois du colonisateur économique, culturel, de tout. Donc nous, c'est quoi la traduction? La traduction, c'est qu'on nous a imposé l'éducation de l'histoire géographie de la France. Nous, on n'a jamais su que chez nous, c'est qu'il y a combien de langues. C'est un travail de nos pères à partir des années 80 pour qu'on répertorie toutes nos langues vernaculaires, comme on dit ça. Et donc, il faut savoir qu'il y a 32. Donc 4 ont disparu, donc maintenant, il y en a 28. Parce qu'il n'y a plus de locuteurs pour les 4 autres. Donc,
Je crois qu'une des premières à s'être penchée sur la question, c'était Louise Michel, hein, qui faisait partie de cette
bande de communards. C'est une personnalité de déportée très importante, parce qu'elle a fréquenté à Kanak de l'époque, son histoire, mais aussi, je pense que ce sont des personnes aussi qui ont épousé la cause, parce que voilà, ils ont été sensibilisés, parce qu'elle a vécu aussi des déportations. Donc elle a compris ce mécanisme-là, je pense. Mais ben, nous, on a fait ça jusqu'à nos jeunes. Donc maintenant, à partir des accords, ben voilà, il fallait modifier maintenant le contenu de l'éducation nationale pour qu'on apprenne nos langues. Il n'y a que 4 langues sur les 28 qui sont apprises. C'est un travail de longue haleine, mais il faut le faire. Parce que la préservation de notre identité et de notre culture est un élément essentiel à notre émancipation. On ne peut pas vouloir s'affirmer au niveau international et puis que nous, on ne préserve pas notre culture et puis nos principes. Si on s'exprime en français, c'est parce que ce sont les conséquences de la colonisation où on nous a imposé de venir faire nos études ici en France. Ok, ça ce sont les bonnes choses, ça je ne le renie pas. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, maintenant, à l'avenir, nous on va rediscuter de ce que l'on veut. Parce qu'on reste français, mais on n'a pas tous les droits, on ne jouit pas de tout ce qui se passe ici en France, là-bas chez nous. On n'a pas tous les pléthores de formation qu'il y a ici, la diversité aussi de centres de formation. On a juste une université française du Pacifique en Kanaky et il y a quoi, 6 filières, point. Il y a les CFA, dans les CFA, il n'y a que 3 filières, point. Voilà.
Il y a une autre chose importante que tu as mentionnée, mais enfin qui est tellement évidente en même temps. Là, on est un certain nombre à commencer à être très sensibilisés sur la question du vivant humain et non humain, et du lien qu'on entretient avec ce qu'on appelle le biotope, notre biotope. Et ça nous ferait peut-être du bien qu'on s'inspire de votre culture, de votre civilisation, et qu'on retrouve aussi peut-être ce que pratiquaient nos anciens à nous, là. Je dis nous, là, pour faire une plaisanterie déplacée, nous, nos ancêtres les Gaulois, là, tu sais, qui avions un autre rapport à la terre, à l'eau, au vivant. Et là, on est en train de se détruire, de scier la branche sur laquelle on est assis, d'empoisonner l'eau, l'air, le sol. Peut-être qu'on ferait bien de s'inspirer et de prendre exemple sur votre culture, votre civilisation, votre mode de pensée et votre rapport à ce qu'on appelle rapidement la nature. Je ferme les guillemets. Hein.
Comme on a dit, c'est culturel. Et je pense que vous aussi, avant, avec les ancêtres, c'était culturel aussi. Mais c'est parce que c'est l'évolution de la société qui a fait ça et qui a fait aussi que la culture, elle s'est perdue. Maintenant, je vais vous dire une petite histoire assez rapidement. Quand Giscard d'Estaing était président, il est venu chez nous sur notre île, sur mon île, hein, l'IFO, pas que en Kanaky, pas que sur la Grande Terre. Il est venu, ils ont préparé une estrade, et lui monte. Et il y a mon grand-père, qui est porte-parole de notre eau. Parce que nous, dans notre société, Kanak, on a une organisation sociétale qui est bien définie. On a un grand chef, son porte-parole, c'est une famille, c'est un clan. On a ses sujets, on a ses guerriers qui défendent, on a ses clans de la terre auxquels lui doit allégeance aussi. Tout ça, c'est notre organisation sociétale. Donc le grand chef, il était assis avec mon père, grand-père, qui était aussi un porte-parole, on est assis là. Et Giscard d'Estaing, il se permet d'aller se mettre en hauteur. Et il présente sa coutume, notre coutume qu'il présente. Le fait de venir chez quelqu'un, on demande autorisation de pouvoir parler, on demande autorisation de pouvoir poser ses pieds, poser ses paroles. Et mon grand-père se lève et il prend la parole et dit, avant de remercier votre Dieu, je vais lui dire une chose. Oui, c'est quoi? Vous allez descendre de là. Parce que ça, c'est pas votre place. Nous, on n'a pas allégeance à vous. Grand chef. Giscard d'Estaing, il est descendu avec son escorte pour aller se mettre derrière. Et là, mon grand-père, il dit, tu vois, pourquoi tu viens faire ma coutume, toi, ici? Toi, tu n'as plus de coutume, tu n'as plus de culture, tu as tué ton roi à la fin des années 1800. Pourquoi tu viens faire ma coutume? Parce que toi, c'est à cause de l'argent. Il faut que tu saches que la racine du mal, c'est l'argent. Voilà ses paroles. Donc, pour te dire ce que tu me disais tout à l'heure, c'est aussi l'évolution de la société qui a fait ça. Peut-être on n'a pas su, vous, les ancêtres, à l'époque, ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait à un moment donné pour préserver. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Parce que ce sont des choses qu'on analyse maintenant dans un temps complètement éloigné. Mais eux, à leur époque, ils ont essayé de le faire au moment voulu. Donc, quand on parle de la civilisation, vous pouvez encore le faire. Parce qu'il y a encore des personnes, je pense qu'il y a encore aussi ici des personnes qui souhaitent préserver ça. Il faut justement s'unir pour faire ça. Parce que vous avez quand même une richesse de terroir, une richesse alimentaire sur des plats et tout, que l'on apprécie beaucoup dans le monde. Et ça, c'est l'identité française, il faut le dire. On parle du vin, on parle du fromage, on parle de tout ça, mais il y a d'autres encore, endroits plus profonds, où c'est là où on va aller dans la France profonde, pour connaître une partie de la culture française. Donc je dis que vous n'avez pas besoin d'autres, parce que je pense que c'est surtout, comme on dit, dans d'autres combats, dans d'autres luttes, parce que c'est une lutte que vous devriez amener, c'est d'être unis à travers tout ça.
Si on pouvait être unis avec vous, ça serait bien aussi.
Bien sûr, non, mais sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Mais je dois dire d'abord vous ici, tout le monde ici, toutes les régions. Parce que chaque région, on a bien compris aussi, c'est bien décelé que chaque région a ses spécificités. Donc ça, c'est la richesse de la France. C'est ça ce qu'il faut préserver encore maintenant pour continuer. Voilà.
Pour clore, aujourd'hui, judiciairement, t'en es où? Est-ce que tu pourrais rentrer chez toi si tu le voulais?
Comme tous mes camarades, on peut rentrer. Moi, c'est juste que quand je suis sorti, ma priorité, c'était de travailler, chercher un emploi, parce que j'ai perdu mon emploi. Moi, je suis ingénieur de formation en excellence opérationnelle et en QHSE. Quand on a une famille et des enfants, il faut se battre. Parce que j'avais le plus gros salaire. Donc, ma déportation, elle m'a coûté ma maison, ma voiture. Et donc, de ce point de vue-là, il faut repartir de zéro. Ça fait partie du militantisme. C'est pas ça qui me bloque. Mais il fallait que j'aide surtout parce que faut savoir qu'après les événements, la province sud, la seule province sur les trois gérée par les non-indépendantistes, ils ont appliqué des mesures de répression sociale face aux Kanak et aux Océaniens. Pour les aides sociales, pour les bourses scolaires, pour tout. Mais tout le monde a survécu à ça. Parce que la lutte du peuple Kanak et de ses amis, de ses alliés, toute lutte, elle a des conséquences, toute lutte, elle a ses victimes, tout, mais voilà, on avance. Et puis, nous ici, notre rôle, c'est ne pas de. On sort, puis voilà, on se tait. Non, il faut aller dire qu'est-ce que c'est le combat.
Voilà. Et donc, tu cherches du travail en métropole?
Je travaille, c'est pour ça que je suis encore là. Donc, mon contrat, il finit en juin. Donc, je vais d'abord rentrer, et après, quand je reviens en septembre, là, je vais vraiment me battre pour trouver vraiment, véritablement un CDI pour que je puisse m'installer. Je me laisse porter aussi par les choses, les éléments, c'est-à-dire, nous, on est très croyants aussi par celui qui est là-haut, notre Seigneur, pour nous guider. Parce que ça a été notre force aussi en prison. Donc, voilà un peu les objectifs, mais la priorité, c'est la famille, les enfants, les études. Et on continue notre combat à travers tout ça, sans oublier tout ça, parce que ce sont nos responsabilités.
Écoute, je te remercie pour cet exposé et pour ta patience de pardonner mon ignorance qui a émergé plusieurs fois dans cette conversation, et je te remercie pour ta tolérance face à mon inculture.
Je peux avoir aussi une inculture par d'autres peuples ou d'autres trucs. Les histoires, on n'est pas censé connaître toutes les histoires, mais le plus important, c'est que quand il y a des moments donnés comme cela, on échange. Et l'échange est important, parce que c'est ça ce qui va nourrir, qui va enrichir après les relations.
Voilà. Eh bien, merci pour tout ce que tu as confié à ce micro, c'est très précieux. Merci à toi.
Merci Jean-Baptiste, merci beaucoup. Et merci à tout le monde qui écoute ce message. Merci.
Et voilà les amis, vive la Kanaky libre et indépendante. Vous pouvez télécharger cette conversation avec Steve via notre site polémiquesetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très prochainement sur votre radio encore libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut !